De retour à Diversité, 13h-15h sur les ondes de Radio Centre-Ville. Mes collègues, vous savez que cette semaine, on a eu plusieurs journées de célébration comme la journée des aînés, la journée de la réconciliation, ça qui touche directement les autochtones. Et François, il y a une autre journée.
Oui, aujourd'hui, donc 5 octobre, c'est la journée internationale France-Québec. Alors, en fait, c'est moi qui ai lancé l'idée, pour dire la vérité. Et pourquoi le 5 octobre?
Parce que le 5... Il lance tout le temps des idées en passant les auditeurs. Voilà.
Ben, j'essaie de la faire rentrer dans l'esprit des gens parce qu'il y a toujours une journée internationale de quelque chose. Une journée, bon, surtout en France, la journée France, Allemagne, France, quelque chose et
il
tout.
Il nous reste la journée internationale du soccer féminin.
Voilà. Mais il y a la journée internationale du sport féminin. Sport ça, c'est féminin. Le 22 janvier, je crois. Ah. Mais pourquoi le 5 octobre? Parce que le 5 octobre 1961 était créée la Maison du Québec à Paris par Charles de Gaulle et André Malraux et côté québécois par Jean Lesage, Georges-Émile Lapalme et René Lévesque. Et ça allait donner plus tard naissance à la Délégation générale du Québec 10 ans plus tard. Mais c'est le 5 octobre qu'a été inaugurée cette fameuse Maison du Québec à Paris. Et pour l'anecdote, c'était une promesse de Jean Lesage lors des élections de 1960 de créer deux délégations, une à Londres, une à Paris. Et je crois que Londres, dès l'hiver qui a suivi, quelques mois avant, celle de Paris a été créée. Donc, c'était le début des relations internationales du Québec. Et aujourd'hui, il y a 33 représentations diplomatiques québécoises à travers le monde. Voilà.
Merci beaucoup, François. Et si nous parlons élections?
Oui, voilà. Ben, en fait, là, on va se diriger du côté de l'Allemagne. Il y a des élections régionales à peu près, très, très souvent ces temps-ci en Allemagne. Et depuis l'arrivée de Olaf Scholz en 2021, qui a remplacé Angela Merkel, ça ne va pas très bien pour lui. Ces élections régionales, il les perd ou il les gagne de justesse contre l'extrême droite. Et j'ai voulu en parler avec un spécialiste qui s'appelle Jacques-Pierre Goujon, qui est professeur des universités et directeur de recherche à l'Institut de recherche internationale et stratégique, l'IRIS. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe avec Olaf Scholz et qu'est-ce qui se passe avec l'extrême droite en Allemagne qui prend de plus en plus d'espace et ça donne quoi? Ben, Maestro Ferrat, à toi l'honneur.
Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On s'intéresse cette fois-ci à l'Allemagne, puisque l'Allemagne vit de gros soubresauts ces temps-ci, surtout sur le plan électoral, l'extrême droite qui fait des gains de plus en plus, autant dans les communes que dans les Länder, et ça ne fait pas exception ces derniers temps, surtout depuis l'arrivée de Olaf Scholz. On se rappelle de Olaf Scholz qui a succédé à Angela Merkel en 2021, pour en discuter, pour analyser un peu tout ça, mais surtout pour nous dire si l'Allemagne est encore un enjeu pour l'Europe. Il s'appelle Jacques-Pierre Goujon. Il est professeur des universités et directeur de recherche à l'Institut de recherche internationale et stratégique, ou si vous préférez, iris-france.org. L'IRIS qu'on connaît bien, puisqu'on a un vivier de spécialistes qui viennent à l'émission L'Histoire jugera. Et voilà, autour de Jacques-Pierre Goujon, qui est en duplex avec Paris. Jacques-Pierre, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez publié « L'Allemagne, un enjeu pour l'Europe », publié aux éditions Librairie Erol, E-Y-R-O-L-E-S.com, pour en savoir davantage. L'Allemagne, un enjeu pour l'Europe. Pourquoi est-ce un enjeu, l'Allemagne, alors que l'Allemagne est quand même un des pays fondateurs de l'Union européenne et qui est le plus peuplé, disons-le, avec le plus grand nombre d'eurodéputés? Bref, de quel enjeu s'agit-il?
Alors, je verrai cet enjeu sous deux aspects principaux. D'abord, l'Allemagne demeure la troisième puissance économique mondiale, donc c'est considérable, et la première puissance économique européenne. Et d'ailleurs, maintenant, depuis l'année dernière, elle dépasse à nouveau le Japon, donc ça montre très bien que ça reste vraiment, pour la géoéconomie, un point tout à fait essentiel, et cela d'autant plus qu'elle a subi des soubresauts liés à la guerre en Ukraine et préalablement au Covid. Je m'explique. L'Allemagne est le pays, par exemple, qui est le plus exportateur vers la Chine, vers des pays asiatiques fondamentaux, et donc rien ne se passe en Europe sans ce pays. Alors ce pays, il maintient une force considérable, hein, puisque l'industrie représente 21% de sa richesse nationale, du PIB, mais en même temps, cette industrie dont dépend beaucoup l'Europe traverse une zone de fragilité, notamment du fait du coût de l'énergie, et beaucoup de chefs d'entreprise commencent à dire ben, nous réfléchissons à délocaliser, à aller voir si ce ne serait pas mieux d'avoir nos entreprises de recherche aux États-Unis. Bon, donc, si vous voulez, mais c'était des questions qui ne se posaient pas avant en Allemagne. Donc c'est un modèle qui a longtemps été admiré et qui maintenant commence à se fragiliser. Et donc les yeux sont tournés vers cette puissance économique, parce que sans elle, l'Europe tourne mal. On le voit à chaque moment. Et quand je dis l'Europe tourne mal, je devrais dire en premier lieu, la France tourne mal. Parce que l'Allemagne est le premier client en matière économique de la France. Donc, si vous voulez, les yeux doivent être tournés vers ce grand partenaire qui joue également un rôle considérable en Europe centrale. Ça, on le mesure peut-être moins outre-Atlantique, mais l'Allemagne a su construire tout un réseau à la fois culturel, intellectuel, économique dans cette partie de l'Europe, et elle se vit d'ailleurs comme un pont entre l'Ouest et l'Est. Et le grand discours du chancelier Scholz sur l'Europe, qui a été prononcé à Prague, mentionne cette notion d'Allemagne pont qui est un relais entre deux formes culturelles, deux formes économiques, deux formes politiques que présente l'Europe.
Récemment, donc, le week-end du 20-21-22 septembre, autre élection régionale, cette fois-ci dans le Brandebourg, gagnée de justesse par les troupes de Olaf Scholz, alors qu'auparavant, dans d'autres élections régionales et même dans des élections municipales, et je parle pas juste d'élections partielles, ça va pas très bien pour lui. L'alternative pour l'Allemagne fait des gains. Que se passe-t-il du côté de cette formation d'extrême droite qui gagne de plus en plus de galons?
Alors, c'est un phénomène qui est très concentré sur l'Europe, enfin sur l'Allemagne orientale, pardon, donc l'Allemagne de l'Est, mais qui a aussi commencé à pénétrer l'Allemagne de l'Ouest. On l'a vu l'année dernière lors d'élections en Bavière, en Hesse, où elle dépassait largement les 10%. Mais en tout cas, pour revenir aux élections que vous évoquez, il est manifeste que cette force politique s'implante durablement à des scores élevés, dépassant parfois, comme à Thuringe, les 30%. En Thuringe, il faut savoir que l'AfD est la première force politique de cette région. Alors maintenant, quelles sont les explications? C'est ça qui est intéressant. Alors il y a évidemment des explications d'ordre national, un mécontentement à l'égard du chancelier et de la politique de son gouvernement, un mécontentement à l'égard de la manière dont le pays est dirigé, avec trois partenaires de coalition dont les philosophies politiques sont parfois très éloignées, entre un parti social-démocrate qui veut mettre l'accent sur la politique sociale, un parti vert pour lequel la transition écologique est centrale, et un parti libéral pour lequel l'équilibre budgétaire est incontournable. On voit bien que là, les choses s'articulent très difficilement. Et le chancelier est profondément critiqué pour cela. Et d'ailleurs, la dernière enquête d'opinion montre que seulement 19% des gens sont satisfaits de son action. Donc il y a un vrai problème de gouvernance et d'action, de résultats politiques au niveau fédéral. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je trouve qu'on ne l'évoque pas suffisamment, c'est que il demeure entre la partie ouest et la partie est de l'Allemagne un vrai malaise de nature à la fois culturelle et politique. Lors des élections, là, que vous avez évoquées, les Allemands de l'Est ont été interrogés. Si on prend par exemple la Thuringe et la Saxe, 75% des électeurs considèrent qu'ils sont encore traités à l'Est comme des citoyens de seconde classe. Et 83% des électeurs de l'AfD pensent cela. Donc, il y a un véritable malaise. Alors, c'est d'autant plus difficile à comprendre que beaucoup de fonds ont été investis pour rehausser le niveau économique de l'Allemagne de l'Est. Entre 1991 et 2020, 1920 milliards d'argent public, c'est considérable. Et donc, on obtient des résultats économiques, puisque là, à l'heure actuelle, le revenu net par habitant en Allemagne de l'Est correspond à 75% de ce qu'il est à l'Ouest. Donc, il y a une convergence économique, mais néanmoins, il reste un véritable malaise. L'identité est-allemande n'est pas suffisamment prise en compte aux yeux des Allemands de l'Est. Et encore un chiffre peut-être pour vos auditeurs, pour bien comprendre la difficulté. Les Allemands de l'Est représentent 19,5% de l'ensemble de la population allemande, mais ils ne représentent que 2% des emplois supérieurs dans l'administration fédérale, la justice, l'université, le monde économique. Donc, on voit bien que là, une série de problèmes n'est toujours pas réglée.
Voilà. Jean-Pierre Goujon, je le rappelle, vous êtes professeur des universités et directeur de recherche à l'Institut de recherche internationale et stratégique iris-france.org et auteur, entre autres, de l'Allemagne, un enjeu pour l'Europe, chez Librairie Erol, donc EYROLLES.com. En terminant, Jean-Pierre, entre la France et l'Allemagne, on vous considère comme un couple. On parle souvent du couple franco-allemand. Il y a même une journée qui célèbre cette vie de couple, le 22 janvier. Mais entre vous et moi, est-ce que le couple bat de l'aile? Est-ce que vous avez même l'impression que le couple fait de plus en plus chambre à part?
Oui, c'est un fait, parce que on a affaire à deux pays qui se sont récemment affaiblis, hein, il faut bien le dire, avec un président français qui, bon, là, ces derniers temps, a prononcé, on dirait, des actes politiques qui ont affaibli, hein, la vie politique française, un chancelier dont j'ai évoqué les difficultés intérieures, et donc cela conduit à ce que les deux pays réfugient un petit peu dans leur précaré. Et donc, non plus cette facilité qui existait préalablement à discuter. Bon. Et en même temps, il y a des intérêts divergents sur des sujets aussi importants que la Chine, l'Afrique, la relation aux États-Unis, l'Europe de la défense. Sur des sujets aussi centraux, il y a des divergences.
Voilà. À suivre, Jean-Pierre Goujon, en duplex avec Paris. Dankeschön. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, François. Alors, on aura avec nous à nouveau François Roberge la semaine prochaine, notre fidèle collaborateur. Madame, Monsieur, cette semaine, on parle beaucoup de recrutement des jeunes dans les gangs. Donc, selon la presse canadienne, la communauté maghrébine à Montréal s'inquiète. Des membres de la communauté maghrébine se sont rassemblés samedi après-midi dans un parc de la ville pour sonner l'alarme au sujet du fléau.
La violence par arme à feu.
Ouais, c'est ça. Non, mes yeux. Du fléau des gangs de rue qui recrutent des jeunes pour commettre des actes criminels. Plusieurs dizaines de participants. Franchement, ce n'est pas un sujet qui on ne veut pas rire du sujet, mais c'est plus moi. Alors, c'est juste pour m'excuser auprès des auditeurs.
Oui, exactement, parce que tout à fait. On en a parlé à la radio cette semaine durant les émissions de Mourad. Durant toute la semaine, parce qu'il y a eu des événements tragiques, la communauté maghrébine spécifiquement a connu deux pertes de jeunes adolescents en l'espace de quelques jours, notamment Rassim Lajrafi ainsi que Mohamed Yanis Serwani. Donc c'est deux pertes de trop. Et nous avons avec nous en direct Madame Adjira Belkacem, fondatrice.
Qui est présidente et fondatrice de l'association des sépulcres musulmans du Québec. Groupe qui soutient les familles musulmanes en deuil. Bonjour Madame.
Bonjour, merci pour votre invitation, c'est très apprécié.
Merci d'avoir répondu à notre invitation, Madame Adjira. Donc, bienvenue à l'émission Diversité. Donc, elle passe chaque samedi de 13h à 14h, de 13h à 15h. Exactement. Donc, Madame Adjira, on va aller directement au vif du sujet. La communauté maghrébine, comme je l'ai dit au départ, a connu deux pertes ces derniers jours suite aux violences, que ce soit par arme à feu ou autre. Donc, ces deux jeunes adolescents, notamment Rassim Lajrafi ou Mohamed Yanis Serwani. Donc, ces deux pertes de trop. À quoi vous avez pensé en entendant cette triste nouvelle?
Oui, écoutez, la communauté maghrébine, la communauté musulmane ou la société québécoise en général, je pense qu'on s'est mobilisé depuis des années, mais malheureusement, on n'a pas eu assez d'écoute parce que, je sais pas, parce qu'il n'y avait pas plus de morts. Ouais. Malheureusement, on a toujours besoin de victimes pour que
Justement, les chiffres, madame, les chiffres que nous avons eus, c'est durant les 4-3 dernières années, c'est aux environs de 40...
Je vais vous dire les 10 dernières années.
Ouais.
Les 10 dernières années. Et pourquoi on le dit? Parce que c'est nous qui enterrons ces jeunes-là. Donc, depuis notre création, la création de l'Association de la sépulture musulmane au Québec en 2014, on a vu ce fléau qui grandit, qui prend de l'ampleur. Et on a fait plusieurs rassemblements, on a crié sur les toits. Malheureusement, on n'a pas été...
Selon vous, Madame Adjira, selon vous, aujourd'hui, c'est beaucoup plus les jeunes maghrébins, il faut le dire. Hein, c'est un constat que tout le monde fait actuellement, qui sont ciblés. Donc, pourquoi spécifiquement
pour être objectif, il faut dire que le fléau, il est... d'une ampleur extraordinaire. Ça veut dire que, oui, les jeunes maghrébins sont impliqués, mais ce n'est pas seulement les jeunes maghrébins. On entend parler de... Parce que vous savez qu'on oublie de parler des personnes qui sont blessées, des personnes qui sont kidnappées, des personnes qui sont horrifiées, terrorisées, ne peuvent pas sortir de la maison. Et ça, c'est... beaucoup de jeunes de plusieurs communautés. Donc, ce qui est visible l'iceberg,
la partie visible,
c'est quand quelqu'un décède. Mais le problème, il est plus profond que ça.
Gérard, vous parlez aux parents, vous les rencontrez, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Mon Dieu, regardez, très bonne question. La majorité des parents qui nous appellent, wallahi, c'est des bonnes personnes, c'est des bons parents qui essaient vraiment de faire l'impossible pour leurs enfants. Mais, à un certain moment,
on est dépassés comme parents.
Et faut pas oublier qu'il y a plusieurs facteurs, il n'y a pas seulement les parents. Nous, comme parents, je parle au nom de tous les parents qui essayent vraiment de donner le meilleur pour leurs enfants. À un certain moment, il y a l'école qui ne fait pas son travail, il y a l'environnement qui ne fait pas son travail, il y a le système en général qui ne fait pas son travail. Donc, nous, comme parents, parfois, on est perdu, on n'est pas outillé, on ne sait plus où se retourner. J'ai un enfant qui a des difficultés, mais l'école ne veut pas écouter. Il a déjà étiqueté comme turbulent, donc ils ne veulent plus de lui. Ils veulent qu'il change d'école ou qu'il soit plus à cette école-là.
Ils veulent se débarrasser donc, c'est un problème pour eux.
Oui. Et je vous dis qu'il y a plusieurs parents qui nous ont appelés à propos de ce problème-là. C'est l'école ne coopère pas, n'aide pas. Je vais parler aussi de la DPJ, qui est devenue un organisme de comment dire, pour faire peur, pour
de répression. Punir les parents.
Et ça, c'est une réalité. Peut-être les gens n'ont pas on n'en parle pas assez, mais il y a un gros problème dans nos institutions. Avant de critiquer les parents, avant de critiquer le jeune lui-même, il faut voir l'environnement. On dit, on ne doit pas...
Madame Belkacem, la police dans tout ça, vous
la
leur parlez
aussi. J'allais venir à ça. La police aussi.
Parce qu'on a l'impression que la police intervient juste après que quelque chose soit arrivé. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un travail qui se fait au préalable? Parce que là, j'ai un ami, je vais le dire, j'ai un ami qui a un enfant qui a des petits problèmes comme ça. Ben, il n'arrive pas à trouver des solutions.
Exactement.
J'en suis sûr, vous en connaissez beaucoup.
Oui, vous savez que normalement, il y a une police communautaire que malheureusement, beaucoup de monde ne...
C'est-à-dire, expliquez.
Ce sont des agents socio-communautaires, vous parlez?
Pardon?
Vous parlez des agents socio-communautaires de la police.
Oui, mm-hmm. mais je vous dirais qu'ils sont très limités et les gens ne sont pas informés. Les gens sont très mal informés des ressources qui
existent. Oui.
Mais je peux prendre la parole jusqu'à demain pour donner plus d'informations, ce qui se passe sur le terrain. mais malheureusement, on n'aura pas assez de temps.
Mais Madame Adija, oui. En parlant des agents sociaux communautaires, il y a l'exemple d'Arrondissement Quartier-Ville. Comme c'est là que j'habite, puis je connais très, très bien le milieu. Donc, il y a des agents socio-communautaires. Quand il y a un problème, la plupart du temps, ils vont être les premiers à être sur place. Et c'est après, s'ils déterminent que le cas mérite d'appeler, les autres policiers, ils vont les appeler, mais sauf que eux, ils sont plus des intervenants, des policiers intervenants, mais non répressifs.
Il n'y en a pas assez, ce que je voulais dire.
OK, oui, oui.
Il n'y en a pas assez. Et je parle surtout à Montréal, dans les quartiers chauds.
Et ça devrait être partout à Montréal.
Dans le fond, Mme Adjira, donc votre demande consiste à obtenir plus de policiers, d'agents sociaux.
Dans tous les quartiers, des agents sociaux communautaires.
On a besoin de ça. Oui. Et on a demandé, même nous, on a fait une petite initiative, malheureusement, on n'a pas eu un écho, mais on a demandé d'avoir des bénévoles pour faire des brigades de surveillance dans les parcs qui sont vraiment chauds.
C'est devenu un point de rencontre.
Mm-hmm. Oui, un point de rencontre, un point de recrutement aussi. Et les écoles secondaires, et maintenant, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, il n'y a pas seulement dans les écoles secondaires, il y a dans les écoles primaires.
Carrément.
Ça, c'est grave. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Donc, imaginez, le recrutement, il commence à 10 ans. C'est graduellement. Mais maintenant, ça a pris de l'ampleur parce qu'ils ont trouvé la liberté totale de faire ce qu'ils sont en train de faire, d'aller recruter des enfants pour faire leur sale travail. Et ça, on le dit à haute voix. Et j'espère que ces gangs-là nous écoutent pour leur dire, là, ça suffit, et on va se mettre debout contre vous.
Parce justement, quand on parle d'action, Madame Belkacem, vous avez fait une rencontre, je crois, samedi dernier, avec des parents, des élus, à Saint-Léonard, si je ne me trompe pas. Donc, quel a été le mot d'ordre de cette réunion?
Le rassemblement, c'était le énième rassemblement qu'on a fait, mais il y avait beaucoup de monde.
Voilà.
Et ce qu'on a remarqué, et c'était un point très, très positif, que les parents, ils avaient besoin d'un espace d'exprimer. Il y avait beaucoup de monde qui en parlait, il y avait beaucoup de monde qui voulait parler, mais on était limité par le temps. Mais tout le monde avait peur, tout le monde était inquiet, et tout le monde voulait exprimer cette colère et cette inquiétude et cette peur. Donc, déjà, le premier point, on a créé un espace d'écoute. Et ce que j'ai aimé, que la police était là, les responsables de la DPJ étaient là, donc ils nous ont écoutés. Ils ont écouté le désarroi, l'inquiétude, la peur des parents, parce que ça a pris une ampleur extraordinaire. Et quand je dis ça, je pèse vraiment mes mots. Et on n'a pas, comme je vous l'ai dit, On entend seulement des jeunes qui sont décédés, qui sont morts. Mais on n'a pas parlé des personnes qui sont blessées.
Touchées.
Qui sont, c'est beaucoup.
Actuellement, Madame Adjira, donc je sais que vous êtes trop sollicitée par des parents. Donc vous, c'est quoi le conseil que vous pourrez donner à des parents qui ont des enfants qui sont un peu, dans la difficulté, dans tout ça?
Regardez, ce travail-là de sensibilisation doit se faire sur plusieurs, avec plusieurs acteurs. Il n'y a pas seulement les parents, parce qu'on ne peut pas travailler seulement avec les parents, parce qu'on est entouré de plusieurs structures. Il y a l'école, il y a la police, il y a plusieurs facteurs qui vont aider. Mais La chose la plus importante quand les parents nous appellent, déjà on est à l'écoute, on les écoute, et ça les rassure que quelqu'un prend il y a quelqu'un derrière le téléphone. C'est pour ça on appelle de faire plusieurs lignes d'écoute pour que les parents puissent communiquer. Déjà appeler, parler, ça c'est très courageux de leur part. La première chose qu'on fait, c'est de les rassurer et de leur dire: il faut dédramatiser la situation. On va trouver des solutions. Parce qu'un enfant, quand il dérape, il est en train d'appeler à l'aide. il est en train d'appeler, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. C'est ça le l'écho qu'on entend des jeunes. Peut-être ils leur disent, ils le disent pas verbalement, mais ils ont besoin de nous. Et graduellement, on a eu quand même des réussites avec plusieurs jeunes. Alhamdoulilah, et on est content avec ça. Et il y a d'autres acteurs qui nous aident. On n'est pas les seuls. Il y a d'autres acteurs qui sont là pour aider. Et il y a des thérapeutes, il y a des personnes à l'écoute, il y a des personnes qui sont professionnelles, qui sont des intervenants formés. Ce qu'on a remarqué, c'est que les jeunes, ils ont besoin d'aide. Ça, c'est primordial que tout le monde le sache. C'est pas parce que mon enfant sort de la maison parce qu'il veut pas rester là qu'il n'appelle pas à l'aide. Mais c'est un cri d'aide de nos jeunes.
Parfait, parfait. Donc, je vous laisserai juste le soin en dernier lieu, Madame Belkacem Adjira, de nous parler un petit peu de l'association de la sépulture musulmane du Québec.
L'association de la sécurité musulmane a été créée en 2014. Pourquoi ? Parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas assez de cimetières pour la communauté musulmane. Il n'y avait pas assez de structures. On était très mal informés. Donc, si on a un décès dans la famille, on ne sait pas quoi faire. Que ce soit pour enterrer ici ou pour rapatrier. Ça, c'est un domaine aussi qui est très, très important pour la communauté et qui est très, très méconnu. Et beaucoup de monde ne savent pas qu'ici, pour enterrer, ça coûte énormément d'argent. Il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, Adjira, ici, l'enterrement, c'est un luxe. Et j'ai trouvé, oui, il a raison. Il faut avoir de l'argent pour être enterré. Et les gens qui n'ont pas ce privilège-là, ils vont être ou bien incinérés parce que la famille, elle n'a pas assez d'argent, même si c'est des musulmans, hein, malheureusement, ou le mettre dans une fosse commune parce que la personne, elle n'a pas de famille ici. Donc, nous, on a commencé vraiment à faire, cette période, je l'appelle la guerre des cimetières. On s'est battu pour avoir des cimetières, on s'est battu pour avoir des ressources. Après 10 ans de travail acharné pour ça, maintenant, on a 8 cimetières dans tout le Québec. On a des maisons funéraires musulmanes. On a un fonds d'entraide de solidarité qui aide les familles qui n'ont pas les moyens. Et aussi, on récupère les personnes qui sont dans les morts, qui n'ont pas de famille. Donc, on leur offre des funérailles dignes avec tous les rituels musulmans. Et ensuite, on s'est retrouvés impliqués dans d'autres problèmes de la communauté, comme notamment ce que vivent nos jeunes, ce que vivent nos familles qui ont des difficultés à vivre, surtout actuellement avec la difficulté économique, c'est devenu très, très difficile pour nos familles.
Adjira Belkacem.
Donc, on essaie vraiment d'aider ce qu'on peut.
Un grand merci à vous, Adjira Belkacem, fondatrice et présidente de l'Association de la sépulture musulmane du Québec. Merci d'avoir été avec nous et un grand bravo à vous.
Merci de nous avoir invités pour donner l'information à tout le monde. Et il faut que tout le monde essaye de travailler pour ça. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Jérusalem, Ikayalami, Ilondoloze. Uhambe nami zunganishilana Jerusalem ikayalami ilondoloze uhambe nami zunganishilana dawuyami alikolana buso wami aukolana Ilondoloze zuhambe nami dawuyami alikolana
la vie
buso wami aukolana Ilondoloze Yeah. aoyame aikolana busoame aokolana.
Suite à cet entretien avec Madame Ajira, j'ai bien dit, hein?
Exactement, c'est Ajira.
Qui est Belkacem, fondatrice.
Présidente de l'Association de la sépulture musulmane du Québec. Donc,
on continue de se poser beaucoup de questions, mais moi, ma question à moi aujourd'hui, la communauté maghrébine devrait-elle être la seule à s'inquiéter? Quels sont les mécanismes que le système a mis en place pour contrer ce virus qui gangrène les communautés culturelles comme la communauté haïtienne, la communauté asiatique, pour ne citer que celle-là? Qu'en pense le directeur général de Radio Centre-Ville?
La société, en équipe, en clan ou en gang, permet aux individus de se sentir connectés, compris et soutenus. Le but est de satisfaire les besoins émotionnels et psychologiques de tout un chacun. La raison est simple. L'homme est un être social par essence et il est dans sa nature de rechercher la compagnie et les échanges avec ses semblables. D'ailleurs, depuis les premiers hommes jusqu'à nos jours, cette caractéristique s'est toujours manifestée à travers les interactions, les relations et les liens qu'il tisse avec ses semblables. Ceci s'explique par le besoin d'appartenance et de lien social. L'homme a besoin de se sentir en connexion avec les autres et de faire partie d'un groupe. Nous le répétons encore une fois, cette nécessité fait partie intégrante de la nature humaine et remonte à la préhistoire. On peut aller plus loin pour dire que la survie de l'individu dépend de sa capacité à coopérer avec ses semblables pour chasser, se protéger et reproduire. De notre côté, les interactions sociales, les échanges verbaux et les gestes de solidarité procurent un sentiment de bien-être, de satisfaction. La sociabilité, dit-on, joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre émotionnel et psychologique de chaque individu. Cette sociabilité favorise l'apprentissage, car l'homme est capable d'apprendre et de s'adapter à son environnement grâce à son interaction avec les autres. Il acquiert des connaissances, des compétences et des valeurs au contact de ses semblables. Vivre en société, en équipe ou en gang offre également une dimension de sécurité et de protection. En s'associant avec ses semblables, l'homme se sent moins vulnérable aux dangers extérieurs. Ces définitions ne s'appliquent pas seulement à l'être humain. Beaucoup d'animaux se regroupent pour se protéger des prédateurs. Ils vivent en meute et ils chassent ensemble. Tout cela pour dire que vivre en société, en équipe ou en gang n'a rien de malsain. Au contraire, c'est positif. Il faut encourager ces modes de vie. Toutefois, quand des individus se regroupent pour faire du mal aux autres, cela devient malsain et répugnant. Là, on fait allusion aux gangs armés, aux gangs criminalisés. D'entrée de jeu, il faut établir une délimitation entre gangs sociaux, gangs de style social et récréatif. Beaucoup de jeunes se regroupent pour avoir du plaisir ensemble, pratiquer un sport, jouer de la musique, etc. Ces gangs sont différents des gangs de rue qui luttent pour avoir du territoire, du pouvoir et de l'argent. Le gang de rue est défini comme un regroupement plus ou moins structuré d'adultes, d'adolescents ou de jeunes adultes qui privilégient la force de l'intimidation du groupe et de la violence pour accomplir des actes criminels dans le but d'obtenir pouvoir et reconnaissance et ou de contrôler des sphères d'activités lucratives. Ce phénomène fait peur. En 2006, on comptait 785 000 membres de gangs de rue et 26 800 organisations aux États-Unis. Au Canada, pour la même année, on dénombrait 300 organisations et 11 000 membres. Et au Québec, il y avait 50 organisations. Quelles sont les causes de ce phénomène? La première est la désorganisation de la société. La société est désorganisée car elle n'arrive pas à contenir et à contrôler les comportements déviants de ses membres. Deuxième raison, deuxième cause, les jeunes, ces jours-ci, accusent un manque de lien flagrant avec les institutions conventionnelles, famille, école, etc. Il faut rétablir l'autorité parentale, mais aussi, il faut apprendre à certains parents à mieux exercer leur rôle. Exclusion. Quand les jeunes se sentent exclus, ils vont se regrouper en gang. Il faut combattre les inégalités, les préjugés, pour que le jeune se sente accepté et toléré. À tout cela s'ajoutent les frustrations, la déviance, le désordre de la personnalité, consommation de drogue, faible estime de soi, symptômes de dépression, problèmes cognitifs, famille dysfonctionnelle, violence physique, sexuelle, psychologique, manque d'encadrement, etc. En tenant compte de tous ces facteurs, tous les jeunes, quelle que soit leur ethnie, leur couleur, sont vulnérables. Oui, les Noirs et les Arabes sont plus visibles, car ils font partie des minorités visibles. Mais le phénomène guette tous les jeunes. Quand une partie du corps est affectée, tout le corps est exposé. Car c'est pour cela que Radio Centreville pense qu'il est urgent pour la société d'agir promptement. Les quartiers défavorisés font partie de la société. Les jeunes issus des parents défavorisés ne doivent pas être oubliés. Ils ont aussi des besoins. Donc, il faut diminuer les écarts sociaux si on veut bâtir une société juste et égalitaire. Et pour bâtir une telle société, il faut prêcher par l'exemple. Il faut que les gangs internationaux arrêtent les guerres. Depuis le 7 octobre 2023, donc un an moins deux jours, un gros gang international réprime un petit. Des milliers de morts, des milliers de déplacés, des milliers d'amputés, et cela se poursuit. Radio Centreville pense aux victimes. Que la paix, la vraie paix, s'installe partout dans le monde.
Tout a oui. été dit. Hein?
Exactement, c'est des mots très sages. Hein. Sincèrement, tout a été dit. J'espère maintenant que toutes les parties concernées vont prendre leurs responsabilités afin d'agir avant qu'un autre drame arrive.
Et aussi rappeler aux parents qui nous écoutent, il y a des organismes qui existent dans plusieurs quartiers de Montréal. Je prends l'exemple de Saint-Michel, d'Arrondi-Quartier-Ville. Il y a Cassia Arrondi-Quartier-Ville, il y a la Maison d'Haïti. Je pense que dans la communauté arabe aussi, il y a le Centre culturel Arrondi-Quartier-Ville. Centre culturel algérien. Donc, il y a pas mal d'associations. Donc, n'hésitez pas quand vous êtes confronté à ce genre de situation, de vous tourner vers ces organismes communautaires.
Et des braves gens comme Adjira Belkacem.
Et des braves gens comme Adjira, justement. N'hésitez pas à vous tourner vers ces gens-là. Allez demander conseil. Allez vous confier avant que le pire arrive.
Exactement, Alette. Non.
Le Centre d'appui aux communautés immigrantes Kassi présente le projet ITMAV, dont le but est d'améliorer les conditions de vie des personnes âgées de plus de 55 ans en situation de vulnérabilité ou à risque de le devenir. Dans le cadre de ce projet, le Kassi établit une connexion vers des ressources de leur communauté du quartier Bordeaux-Quartier-Ville, tout en favorisant leur autonomie, en leur donnant l'opportunité de faire des choix comme une démarche personnelle d'appropriation du pouvoir d'influer sur leur vie. En entrevue à Radio Centreville, la responsable du projet ITMAV, Inès Alexandra Ayala, a livré les détails sur son travail quant aux objectifs, voire des défis à relever. Elle était au micro de notre collègue Ismaïl Mbonigaba.
Aussi, le travail de milieu, son objectif, c'est de faire un travail personnalisé. Alors, si l'on veut faire un travail personnalisé et rapprocher les services publics et communautaires du secteur, et il faut avoir un peu comme un aperçu et une connaissance de ce qu'il y a dans le quartier et ce qui peut être utile pour les personnes du secteur.
Et vous avez donc identifié les personnes, les bénéficiaires de ce projet. À quel nombre est-ce qu'ils peuvent être évalués dans le secteur que le CACI va couvrir?
Mon travail consiste à faire un repérage des personnes qui ont besoin de notre aide, comme ITMAV. Alors, le repérage se fait de plusieurs façons, comme des visites sur le terrain, ou en mettant comme l'œil, si on peut dire, sur les endroits surtout fréquentés par par le groupe, comme les pharmacies, les églises, les cafés, les boulangeries, surtout les boulangeries qui ont accès, qui donnent accès à une table pour prendre un café. Et en plus, j'utilise beaucoup aussi, comme vous dites, le cassis a une très grande clientèle. Et le cassis aussi a des services surtout dans l'aspect migratoire, mais nous avons vu qu'il y avait un grand besoin d'aller en plus en profondeur dans les services qu'on pouvait donner, surtout dans ce groupe objectif des aînés. Alors, j'utilise aussi les ressources internes pour faire du repérage, les activités. Si je vois qu'il y a des activités ou des séances d'information qui peuvent être intéressantes pour les personnes aînées, je participe pour promouvoir le projet et leur mettre en leur connaissance les services que je peux leur apporter.
Et en fait, vous vous approchez de ces personnes.
Exact.
Et vulnérables, bon, selon leurs besoins. Donc, leurs besoins, ils sont de quel ordre? Donc, je veux parler de besoins spécifiques de ces gens. On sait qu'ils sont nombreux, bien sûr. Mais alors, lesquels classez-vous comme prioritaires?
Nous avons pu identifier 5 catégories spécifiques, dont en ordre d'importance, administrative, de sociabilité, santé, domestique, et mobilité, pardon.
Okay.
Alors, ça serait administrative, santé, mobilité, domestique, santé.
Pouvez-vous élaborer plus?
Alors,
parce que
dans les administratives, qui a été le plus grand nombre d'interventions demandées ou d'aides demandées par les personnes que j'ai reçues, ça a été surtout pour remplir des formulaires, recevoir de l'information, avoir accès à cette information.
L'utilisation de l'ordinateur, disons.
Exactement. Les impôts. Parce que, par exemple, les formulaires, oui, ils sont disponibles en ligne.
Oui.
Mais nous nous rencontrons, eux, ils rencontrent la difficulté que c'est des formulaires en ligne, ils ne savent pas comment y accéder. Et aussi, il y a la taille de la lettre ou des formulaires qui est difficile à lire pour eux.
La visibilité de la lecture,
la
en général.
Oui. Exactement. Alors, ça a été une grande partie des interventions qui ont été demandées. Dans le cas de santé, ça a été surtout faire des contacts avec la RAMQ. Et il faut faire une parenthèse ici, parce que surtout dans le quartier Bordeaux-Quartierville, nous recevons nous avons une population, une très grande population qui sont membres de communautés immigrantes. Alors, une des difficultés, ça a été le langage. Alors, plusieurs personnes, surtout si on parle directement des personnes aînées. Ce sont alors une grande partie des personnes aînées ont immigré au Canada à un âge avancé. Alors, pouvoir parler.
Les défis linguistiques, vous voulez dire.
Les défis linguistiques qu'ils rencontrent sont très grands. Alors, dans le cas de santé et de l'administratif, la contrainte linguistique est importante. Alors, dans le cas de santé, faire les contacts avec la régie de l'assurance maladie, prendre des rendez-vous, comprendre les instructions qu'ils reçoivent d'un médecin, comment aller comprendre les examens de laboratoire. Alors, tout ça, ça a été des contraintes qu'on a cherché à diminuer pour eux. Alors, on a fait un très beau travail avec nos collègues du CACI, parce que nous, comme vous avez rencontré Valérie est la coordinatrice de tous les chargés de projet, qui sont nombreux ici au CACI. Alors, et nous avons des collègues très enthousiastes,
motivés.
Très motivés. Alors, quand j'avais une contrainte, je cherchais où pouvoir rencontrer les solutions. Alors, dans le thème linguistique, on a un programme qui s'appelle ICI Santé. Alors, dans ce cas en en particulier, prendre des rendez-vous, pouvoir aller voir un médecin et comprendre. On a pu trouver des solutions avec l'accompagnement d'un bénévole dans ce cas-ci, que même nos collègues en charge du projet prenaient, les aidaient à chercher les ressources en santé et prendre les rendez-vous.
Voilà. Et la mobilité, je pense que c'est un autre défi. Oui.
Oui, la mobilité, ça a été surtout la demande pour le transport adapté de la STM. Alors, remplir le formulaire encore, mais les aider à faire la demande pour avoir le transport adapté, pour pouvoir sortir de l'isolement, c'est très important. Alors, on peut dire c'est seulement remplir un formulaire, mais l'objectif final ici du transport adapté, c'est pouvoir sortir de l'isolement. Vous voyez? Alors, en santé aussi, il y avait quelques cas, s'ils avaient besoin d'un appui psychosocial, alors faire les connexions avec les ressources pertinentes.
Quel est le genre de défi que vous-même, Inès, vous pouvez rencontrer dans l'exécution de ce projet?
Les défis ont été comme... C'est pour ça que j'ai trouvé important de mentionner un peu les caractéristiques du secteur, parce que un des défis, ça a été la communication avec certains groupes.
Oui.
Heureusement, comme je vous disais, nous avons les ressources comme Cassie. Alors, je devais demander l'appui à certains collègues pour comme interprète. Mais on a vu quelque chose de très intéressant avec notre activité. Nous avons une activité hebdomadaire qui est un café rencontre avec un groupe. Et cela nous a permis que le groupe comme tel tisse des liens très serrés, très d'amitié. Alors, dans ce cas de barrière linguistique, on a vu que tout naturellement, des fois, comme qu'un inconnu s'intègre à la conversation, n'était pas très, très bien reçu.
Oui.
Mais dans le même groupe, les personnes disaient « Est-ce que tu peux m'aider à faire la traduction? » Alors, c'est comme ça que ça a été comme un échange et j'ai vu ça comme très intéressant parce que ça me démontrait que cette activité est d'une grande importance pour eux, tant pour rompre l'isolement, pour les conversations et me permettre aussi de faire des interventions plus personnalisées, plus approfondies avec l'aide d'eux-mêmes.
Parlons culture, le slameur David Mézi revisite sa carrière d'artiste et présente ce dimanche un spectacle qu'il appelle Slamania Métamorphose. En entrevue à Radio Centre-Ville, M. Mézi a révélé qu'il entame bientôt une tournée internationale pour marquer cette métamorphose. Il était au micro de notre collègue Ismaël Mbonigaba.
David, bonjour.
Bonjour, Ismaël. Un plaisir d'être là avec vous.
Bon, merci beaucoup. Écoute, un spectacle cette fin de semaine, hein?
Oui, exactement. Oui. Uh-huh. C'est ce dimanche 6 octobre à l'espace Le Vrai Monde, 9155 rue Saint-Hubert. C'est au collège Aronsic que tout le monde connaît.
Mais je pense que tu es souvent là-bas. Hein?
Oui, je fais souvent des activités là parce que c'est accessible, la scène et la salle globalement me permettent aussi de pouvoir créer avec les lumières, les artifices nécessaires. C'est une grande belle scène. Mm-hmm. Donc, ouais, souvent je suis à l'espace Le Vrai Monde.
Alors, le présent spectacle, ça illustre quoi? Parce que toujours, tu as quelque chose qui vient nous chercher.
Oui, oui. je suis un fan de comédie musicale, de théâtre musical. Depuis que je suis ici, en fait, j'en fais beaucoup. J'ai passé 5 ans à faire des comédies musicales à la Place des Arts. Et le dernier en date, c'était une adaptation des chansons de Ginette Renaud qui s'appelait Flamme. Et présentement, je suis en train de revisiter ma carrière personnelle, surtout à travers le slam. Et c'est pour ça que ce spectacle s'appelle Slamania, mais aussi Métamorphose, parce que c'est la première fois que les gens vont véritablement me découvrir ou redécouvrir pour certains avec musiciens. On aura 6 musiciens qui nous accompagnent. En fait, le spectacle Slamania Métamorphose se présente comme un récital de slam, poésie et de chansons. C'est-à-dire que les gens qui vont venir assister à ce spectacle vont découvrir des chanteurs, des chanteuses, des slameurs, des slameuses, des poètes, des poétesses qui vont dire des textes. Et la plupart des textes et des chansons seront dédiés à la femme, particulièrement les mamans. Et étant donné que le 2 août dernier, ma mère à moi était décédée, étant donné aussi que les funérailles ont eu lieu à Orlando le 17 août, et que j'avais pas vraiment la famille artistique qui pouvait m'accompagner d'aller là-bas. Donc je me suis dit, ici c'est ma famille, j'habite ici, je suis citoyen ici, je vais donc faire un spectacle en hommage à cette femme aussi. Il faut dire que c'est le Kepka qui m'a permis de le faire, puisque c'est dans le cadre de la 23e édition du Mois Créole à Montréal. Ils m'ont donné l'espace, ils m'ont tout donné en fait, et moi j'arrive, je débarque avec le spectacle. On sera une douzaine d'artistes sur scène, chanteurs, chanteuses, slameurs, slameuses, poètes, poétesses, et accompagnés de 6 musiciens. Et ces 6 musiciens-là nous accompagnent tout le long de la soirée. Et c'est vraiment une soirée où les chansons d'antan, les chansons d'hier et d'aujourd'hui vont s'entremêler. Et pour faire un joli voyage, on va honorer aussi 3 femmes ce soir-là, 3 mamans, 3 artistes mamans, juste pour essayer de montrer aussi toute l'importance de la femme dans la société, mais particulièrement celle qui donne naissance, les mamans.
Ben écoutez, mes condoléances d'abord, et que l'âme de ta mère repose en paix éternelle. Mais puisqu'on parle de métamorphose, c'est ta propre métamorphose cette fois-ci.
Oui, oui, tout à fait. Ben, d'abord, ceux ou celles qui m'ont vu depuis après le décès de ma mère sont admirablement étonnés de ne plus me voir avec chapeau. Je ne porte plus.
Tu as changé.
Je ne porte plus de chapeau depuis le décès de ma mère. Et ça, je ne vais pas dire que c'est personnel, mais c'est dans un rêve un de ces soirs, celle qui m'a porté, supporté, qui représentait un pilier pour moi, elle m'a fait une confidence que je ne vais pas dévoiler publiquement. Et depuis lors, j'ai décidé que je devais entamer un processus. La première étape, c'était un changement physique quelconque, le chapeau enlevé, tous les bling-bling qui apparemment devrait me permettre d'entamer ce processus. Le processus continue du point de vue personnel, mais professionnel aussi. Le 6 octobre, les gens vont pouvoir me redécouvrir un autre artiste qui joue avec un full band, avec des musiciens, etc. C'est une façon de rappeler que ce David-là, qui était taciturne, subtile, qui était plutôt à l'intérieur dans sa zone de confort, va dévoiler finalement dans cette métamorphose toute la dimension de son talent, parce que les gens ne le savent pas. En tant que slameur de la communauté haïtienne, je gagne aussi des prix de slam dans la communauté québécoise blanche, parce que plusieurs fois j'ai été champion dans certaines soirées de slam, par exemple avec la Ligue québécoise de slam, dans les soirées qui s'appellent Slam Montréal, j'ai gagné le droit de représenter Haïti dans les francophoniques. Les francophoniques, c'est ce qu'on appelle, c'est dans le cadre du Grand Slam International de Montréal, et je vais représenter Haïti, la communauté haïtienne, donc parmi 8 pays. Donc c'est une façon de dire que en novembre, à partir d'octobre, s'entame justement cette métamorphose, et ça se poursuit en novembre, ça se poursuit aussi en décembre, puisque après je vais me déplacer pour aller en France, pour aller en Belgique, pour aller apporter justement ce côté slammer international pour la communauté montréalaise.
Moi je dirais, avec métamorphose, je pense que tu es déjà à la fin de la métamorphose, parce qu'avec avec la fin de la métamorphose, c'est le papillon qui prend son envol.
Ouais, exactement. Et je pense que c'est le 6, justement, que la chenille devient le papillon dont on parle, justement. Le 6, la chenille devient le papillon. Et tous ceux qui vont me voir vont se dire, ah, je ne le connaissais pas sous cet angle. Et je sors vraiment de ma zone de confort, et je veux vraiment étaler ce talent, cette aptitude, cette capacité que Dieu m'a donnée. Je veux vraiment que les gens connaissent toute la dimension de qu'est-ce que je veux faire. Je reste toujours humble. C'est une valeur que j'ai depuis que je suis enfant, mais je ne vais pas cacher non plus le don, ce talent que Dieu m'a donné. Donc, dans ce sens, je veux juste rappeler que oui, justement, la chenille devient ce papillon à partir du 6 octobre. Et comme l'a dit ma mère, je fais confiance au processus.
Ok, ben, c'est-à-dire que ta programmation internationale, c'est à partir de quel
Je commence avec le Grand Slam International de Montréal le 13. Mm-hmm. Je serai à la Livrerie pour présenter un PowerPoint sur Haïti. Je suis le slammer principalement invité dans les francophoniques, oui, pour parler de la ville d'où je viens, du pays d'où je viens. À mm-hmm. partir de ça, un slam. Je viens de Port-au-Prince, mais je vais parler d'Haïti. Okay. Je mm-hmm. représente Haïti dans ce Grand Slam International. Ouais. Donc, c'est le 13 que je présente Haïti, les belles facettes d'Haïti, pas tout ce qui sont mal là dont on parle, mais je vais mm-hmm. parler de la géographie du pays, un peu de politique aussi, mais c'est ça que je fais le 13 pour la présentation, le PowerPoint sur Haïti. Le 16, je suis dans les demi-finales à la maison culture Claude Léveillé. Ouais. Et puis, si je passe évidemment la demi-finale, je vais le passer, vous en faites pas. Mm-hmm. Le 17, je serai à la grande finale du Slam International de Montréal. Et si je gagne, mm-hmm. naturellement, ouais, ça va déclencher tout ce qui va être déclenché. Je serai le premier champion du Grand Slam International de Montréal. Mm-hmm. Je vais pouvoir aussi aller dans d'autres activités, dans d'autres, etc. Mais je veux juste que les gens savent que, par exemple, le 30, avec... je ne sais pas si je dois le dévoiler, mais tu connais les grands prix littéraires du Baobab. Mm-hmm. J'ai été désigné stylo d'honneur. Donc, il y a plein de choses qui arrivent en novembre. Le 30 novembre, je recevrai justement cet honneur-là. Et puis, en décembre, je vais partir pour aller à l'Hexagone en France, particulièrement pour aller présenter mon slam. Et puis, en février, je serai en Belgique.
Bon, David Mézis.
J'ai oublié de dire qu'à la fin du mois d'octobre, je serai à Cuba. Wow. Justement, wow, dans le cadre de la Journée internationale de la langue créole.
Slamonia.
Oui. Slamania. Je m'appelle David Mézis et je suis le slammaniac de la ville.
Je pense que c'est un concept que tu viens de créer toi-même.
Oui, exact. Wow. Non, le slam, je ne l'ai pas créé.
Non,
mais...
je veux dire. Slamania.
Oui, parce que je suis un maniaque du slam, donc je me considère comme un slamaniaque. Voilà.
Waouh. Bon, David Mézi, merci beaucoup de cette entrevue. Alors, bonne chance. Donc, on rappelle aux auditeurs et auditrices que c'est dimanche, le 6.
Exactement. Ce dimanche, à 18h, on attend les gens. Vraiment 18h, entrée dans la salle. 18h30, commence l'interlude musical avec les musiciens. Mmh. 18h45, l'événement commence. Il ne faut rien rater parce que je serai au tout début pour...
Vous voulez manger un bon mets créole, genre manger la caille? Resto Cricrac est la place. Vous y trouverez une nourriture créole de qualité supérieure, comme du lambi, poulet boucané, dinde, griot, légumes, tassot de cabri, tassot de bœuf, poisson, pâté cordé, etc. Nous sommes les champions du service traiteur. Pour peu importe l'événement que vous organisez, passez-nous voir dès maintenant au 91 85 boulevard Saint-Michel, près de Louvain. Nous sommes ouverts tous les jours, même les dimanches. Téléphone 514-328-6161. Venez et voyez que Cricrac est vraiment bon.
L'efficacité, la courtoisie, la ponctualité sont devenues les notes d'excellence de Maître Suzy Jean. Alors, sachez faire d'elle votre meilleur atout. Pour vos testaments, célébrations de mariage, achats de propriété, Maître Suzy Jean Notaire. Maître Suzy Jean Notaire vous attend dans le chic de son bureau au 4570 rue Jean Talon Est, suite 202. Si on ne parle pas l'autre, n'a pas qui s'appuie bon pour nous, c'est pour ça mettre Suzy Jean là, oui. Mettre Suzy Jean d'auteur à le rencontrer avec elle, dans 4570 rue Jean Talon Est, bureau 202. Téléphone 514-318-1854. 514-318-1854. Maître Suzy Jean, notaire. Le vôtre.
Tu penses qu'animer à la radio, c'est pour les autres puis que c'est inaccessible? Ben, c'est tout le contraire. La radio a besoin de relève. Elle cherche du monde allumé qui a des choses à dire. Ceux que tu écoutes actuellement sont posés les mêmes questions que toi.
Ah ouais?
Mais ils ont agi. Ils ont choisi une formation. Ils ont appris le métier. Et aujourd'hui, ils sont en onde. Le chemin le plus court entre chez toi et la radio, c'est le Collège Radio-Télévision de Québec. Un cours pratique en deux sessions. Toutes les informations sont au crtq.ca.
Vous voulez manger un bon mets créole, genre manger la caille? Resto Cricrac est la place. Vous y trouverez une nourriture créole de qualité supérieure, comme du lambi, poulet boucané, dinde, griot, légumes, tassot de cabri, tassot de bœuf, poisson, pâté cordé, etc. Nous sommes les champions du service traiteur. Pour peu importe l'événement que vous organisez, passez-nous voir dès maintenant au 91 85 boulevard Saint-Michel, près de Louvain. Nous sommes ouverts tous les jours, même les dimanches. Téléphone 514-328-6161. Venez et voyez que Cricrac est vraiment bon.
Il faudrait qu'il y en ait plus de gens qui aillent dans les galeries, qui voient que c'est pas si cher.
Les arts visuels, ça aurait dû être un peu plus vu.
Il y a tellement à voir, c'est incroyable.
Beaucoup de rouge, on a du ocre, on a du orange.
La vie prend forme de toute cette glaise, cette bouette.
C'est une boule d'aluminium avec des bouchons d'oreilles.
Amateurs d'art visuel, laissez vos oreilles s'en mettre plein la vue. Le magazine radio in situ.
C'est un peu comme un spectacle laser, mais à l'intérieur de la tête.
Suivez la guide de Chantal Lheureux tous les samedis de midi à 13h sur les ondes de Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.